Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Esprit Occitanie. Vous écoutez Vers de Terre, l'émission pour les auditeurs Vers de Rage. Aujourd'hui dans Y'a quoi, on s'intéresse à ce qu'est l'intelligence artificielle. On va laisser le micro à 6 étudiants et étudiantes du Master PEPS de l'Université du Mirail. Ils vont tenter d'apporter des réponses à nos incertitudes et nos questionnements sur l'IA. Et oui, l'IA, l'AI, intelligence artificielle et son fameux ChatGPT dont on entend parler constamment. Parce que oui, aujourd'hui l'IA s'infiltre dans nos échanges, dans notre santé, dans nos prises de décision, dans la suggestion de films à voir, de musique à écouter, dans la rédaction de lettres de motivation et jusque dans nos rencontres intimes. Alors, avec les camarades, on a voulu vous et nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne et ce qui se cache derrière, comme les enjeux environnementaux et les défis à relever concernant la mise en place d'une réglementation efficace. Car l'IA est souvent critiquée pour ses pratiques discriminatoires, liées notamment au genre ou à l'origine ethnique. Elle nourrit des questionnements quant à la remise en cause des processus démocratiques, par exemple par la diffusion de fausses informations, à l'atteinte de la vie privée et à l'autonomie personnelle, ainsi que par les utilisations abusives des systèmes d'intelligence artificielle par certains États à des fins répressives. Bref, restez avec nous, ces prochaines minutes on va parler environnement, réglementation, droit du travail, énergie et inégalité sociale. Que du fun! Pour répondre à nos questions, nous sommes entourés de Yann.
Bonjour.
Bonjour. Qui a passé des nuits à décortiquer le fonctionnement de ces algorithmes et notamment ceux de ChatGPT. De son côté, Ati.
Bonjour.
Bonjour Ati. Tu vas nous parler des impacts environnementaux et de l'utilisation des ressources naturelles. Eliette et Joël.
Salut.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez nous partager un aspect majeur mais souvent invisibilisé, les travailleurs du clic. Et enfin, pour clôturer cette tentative de vulgarisation sur l'IA, Mathis,
bonjour.
Tu prendras le micro pour nous présenter la réglementation en cours et le chemin qui reste à parcourir pour pouvoir l'encadrer. Alors, merci à tous les cinq d'être là. Je me tourne d'abord vers toi, Yann. Je t'ai vu arriver avec des plans, des cartes, des feuilles de stats dans le bureau. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce qu'est concrètement l'intelligence artificielle ?
Alors, salut à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je vais commencer par le commencement, parce qu'avant de parler d'intelligence artificielle, il faut parler d'algorithme.
Ah oui, le fameux mot magique qu'on entend partout. Mais dis-moi, c'est quoi exactement un algorithme ?
Alors, c'est un peu comme une recette de cuisine. Un algorithme, c'est une suite d'instructions à suivre pour arriver à un résultat. Comme une recette, sauf qu'au lieu d'un gâteau au chocolat, on obtient une prédiction de prix immobilier, une reconnaissance faciale ou une traduction.
Et ça existe depuis longtemps ?
Oh oui, à la base, les mathématiciens s'en servaient pour résoudre des problèmes comme la fameuse suite euclidienne, qui servait à trouver les plus petits dénominateurs communs, pour ceux qui se souviennent de leur cours de collège. Et ensuite, on les utilise dans tous les domaines numériques. Même une feuille Excel avec des formules, c'est un algorithme.
Ah donc, pas besoin d'un robot qui parle pour faire de l'IA ?
Alors non, pas tout à fait. En fait, l'intelligence, dans l'intelligence artificielle, c'est surtout la capacité à automatiser des tâches qu'on faisait avant avec notre cerveau.
Ok, mais j'imagine qu'il y a eu des évolutions depuis la fameuse suite euclidienne.
Ah oui, tu as raison. Nous avons eu de nombreuses évolutions que l'on utilise encore aujourd'hui. En premier lieu, je vais vous parler du machine learning.
Le machine learning, ça m'a l'air assez compliqué ça.
Oui et non. Le machine learning, c'est quand un algorithme se contente de suivre une recette fixe. Mais il apprend de l'expérience. L'un des pionniers, Arthur Samuel, a par exemple créé un programme pour jouer aux échecs qui s'améliore tout seul avec le temps.
Un programme qui s'améliore tout seul ? Mais il faisait comment ? Il regardait des tutos YouTube sur les échecs et il jouait aux échecs avec ses amis programmes ?
Presque. Il utilisait ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. En gros, le programme reçoit un malus quand il perd une partie et un bonus quand il gagne. Il apprend donc à éviter les erreurs. Un peu comme nous, après un bon devoir, on reçoit une bonne note ou une punition à la suite d'une bêtise.
Ah oui, ok, je vois parfaitement. Et est-ce qu'il existe d'autres types d'apprentissage pour les programmes ?
Alors oui, tout à fait. Il y a l'apprentissage supervisé, où l'humain donne une quantité de données, de la data au modèle. Par exemple, si on veut qu'il devine le prix d'une maison, on lui donne différentes informations, comme la taille, l'emplacement ou le prix réel. Et il ajuste son calcul pour coller à la réalité.
Ah et donc en fait, dans l'apprentissage des programmes, l'humain il est indispensable ?
Alors non, pas forcément. Il y a une autre approche que l'on nomme l'apprentissage non supervisé. Là, on lui dit rien du tout. On lui donne juste des données, et lui, il va chercher tout seul les motifs, les patterns, et les regrouper ensemble. Un peu comme un enfant qui trie ses bonbons par couleur ou des formules géométriques les unes avec les autres sans qu'on lui demande.
Et c'est ça que ChatGPT utilise ?
Pas tout à fait. Là, on entre dans une autre dimension, le deep learning.
Oh là, le deep learning, ça m'a l'air assez obscur.
Ne vous inquiétez pas. Le deep learning, c'est juste des réseaux de neurones artificiels inspirés du cerveau humain. Chaque neurone fait un tout petit calcul et en les empilant par couche, les modèles peuvent analyser des images, des sons ou des phrases.
Ah donc tu veux dire que ChatGPT c'est une sorte de cerveau géant ?
Disons plutôt un simulateur de langage géant. Par exemple, si tu lui montres une image avec un chiffre, la première couche va juste voir des pixels blancs et noirs, la suivante va reconnaître des formes. Et les couches plus profondes, elles vont deviner que c'est un 3 ou un 7 en regroupant les différentes informations qu'il a analysées aux couches précédentes.
Waouh, c'est vraiment impressionnant, mais ça doit être gourmand tout ça, non ?
Oula, oui. Il faut énormément de données pour entraîner ces modèles, et énormément d'énergie pour les faire tourner. On parle de millions de petits neurones qui bossent en même temps.
Ah ouais, des millions, je pensais pas autant. Mais c'est encore un peu flou sur le fonctionnement de ChatGPT. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Bien sûr, bien sûr. Alors, pour faire simple, ChatGPT, c'est une machine à prédiction. Elle devine à chaque instant quel mot a le plus de chances de venir après le précédent. Un peu comme quand tu tapes quelque chose sur Google, il te propose la suite automatiquement.
Ah oui, les fameuses suggestions dans la barre de recherche.
Exactement. Et je parle de Google parce que c'est justement chez eux qu'a été inventée l'architecture qu'on utilise aujourd'hui, le Transformers.
Rien à voir avec le film, j'imagine.
Non, pas du tout. Ici, le Transformers, ou modèle auto-attentif, c'est un système qui permet au programme de mieux comprendre le texte qu'on lui donne. Ce texte, on l'appelle le prompt. C'est-à-dire que l'utilisateur écrit pour lancer une question ou une commande.
Ok, alors le prompt, c'est juste la question que l'on pose à chat alors ?
Oui, absolument. Et ce prompt va d'abord passer par un mécanisme qu'on appelle l'attention, qui analyse les mots entre eux pour comprendre le contexte. Par exemple, il va faire la différence entre le lit, où on dort, et le lit de la rivière. Ensuite, ce texte passe par des réseaux de neurones qui calculent la probabilité du mot suivant. Le modèle ajoute ce mot, puis recommence. Il prend cette nouvelle phrase, recalcule le mot suivant, et ainsi de suite.
Donc il ne répond pas vraiment à une question, en fait, il complète un texte.
C'est bien ça. Pour lui, il n'y a ni question ni réponse. Juste une suite de mots à prolonger. Par exemple, si j'écris la capitale de l'Australie, sans point d'interrogation, il répond Canberra. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il comprend la question, il fait simplement une estimation statistique. Et parfois, il peut se tromper et dire Sydney.
Ah oui, donc ce n'est pas infaillible.
Non, et c'est pour ça qu'on lui fournit des milliards de données, pour qu'il apprenne à produire des réponses les plus justes possibles. Et ce qui rend tout ça bluffant, c'est justement ce mécanisme d'attention. Il permet au modèle de garder une cohérence dans le texte et de suivre le fil et d'être fluide. Et voire drôle parfois, enfin sans vraiment le vouloir.
Oui, très bien. Et j'ai juste un petit doute, est-ce que si on pose la même question à tout, enfin est-ce que si tout le monde pose la même question, ça veut dire que tout le monde obtient la même réponse ?
Eh bien non, pas totalement. Les concepteurs ont intégré des algorithmes pour que les réponses varient légèrement, un peu comme le ferait un humain. En plus, le modèle continue d'évoluer. Il apprend en permanence grâce au retour des utilisateurs et des experts. Il repère ses erreurs, s'ajuste. Un peu, on peut même modifier ses réponses avec le temps. Tout ceci grâce au machine learning qu'on a vu précédemment.
Ok, et c'est peut-être le moment de s'inquiéter, non ?
Non, alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est important de comprendre qu'il y a derrière les IA des maths, des stats et des algorithmes. Pas de conscience, ni d'âme, juste une machine qui prédit.
Super, et ben merci Yann de nous avoir dévoilé les systèmes qui composent l'intelligence artificielle de nos jours. On comprend mieux le fonctionnement de cette machine. Je vais maintenant passer le micro à Hati qui s'est concentré sur les enjeux environnementaux et énergétiques reliés à l'IA. Une partie qui est soumise à des débats entre les voix qui sont pour une accélération technologique nécessitant plus de ressources et les voix qui font état des dites ressources en promouvant une décroissance. Alors Hati, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les besoins de l'IA ?
En fait, il est possible de voir les effets de l'IA dans différents domaines. Bien sûr qu'il y a de nombreuses questions qui peuvent nous embrouiller tous, comme quels minéraux et énergies sont utilisés, ou comment ces ressources sont traitées, ou bien comment on peut s'adapter au changement climatique. Je propose de me concentrer sur la consommation d'eau et d'électricité. Laissez-moi vous donner un exemple simple pour nous aider à démarrer. Le centre de données installe des systèmes alimentés par l'eau pour refroidir les appareils. Par exemple, une conversation moyenne avec ChatGPT consomme environ 500 ml d'eau. Ici, on repense maintenant à ces données qui se forment dans nos esprits, mais en prenant en compte 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels.
Et cette situation ne se limite pas à la seule consommation d'eau, je crois. Il y a d'autres dépenses comme l'électricité, n'est-ce pas ?
Oui, sur la consommation d'électricité, il existe également de nombreuses données qui pourraient nous surprendre. Le centre de données que je viens de mentionner est, en bref, le centre qui permet la collecte, le traitement et la distribution de grandes quantités de données qui constituent les opérations informatiques d'une organisation. Il existe environ 12 centres de données dans le monde. Ces centres, dont le nombre devrait doubler jusqu'à 2030, représentent environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Ah, ça me paraît beaucoup, même énorme, mais j'arrive pas bien à me représenter. Est-ce que tu as un exemple comparatif pour se figurer cette consommation ?
Bien sûr, cette information peut paraître légère, mais cet impact est équivalent, par exemple, à l'industrie aéronautique. Si l'on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, les centres de données représentent actuellement environ 3% de la consommation totale d'électricité du pays. Et ce chiffre devrait tripler dans les 5 prochaines années.
Très bien, donc c'est donc une grosse partie des consommations d'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, est-ce que tu peux nous dire quelle est la part des énergies renouvelables dans cette consommation ?
En fait, les chiffres que je vais donner cette fois, ils sont élevés, mais pas à notre avantage. Environ 60% de la demande est satisfaite par des sources d'énergie non renouvelables, telles que le charbon et le gaz naturel. Disons-le ainsi, ce taux entraînera des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, équivalent à la quantité produite par 16 millions de véhicules à l'essence. D'un autre côté, ces innovations peuvent contribuer à améliorer les campagnes publicitaires et les stratégies marketing, mais est-ce qu'elles sont tout aussi utiles lorsqu'il s'agit de questions complexes sur l'avenir de notre environnement ?
Et oui, et je pourrais ajouter des dizaines de questions inquiétantes comme quel sera le coût de ces innovations pour notre planète ? Pourrait-il mettre en péril nos objectifs climatiques ? Et est-il possible d'adopter ces innovations tout en protégeant notre planète ?
En fait, le point le plus simple que je puisse dire est que cet algorithme doit être formé. En adoptant un processus long, cette formation consiste à exposer l'algorithme à des données structurées et volumineuses, telles que du texte, de l'audio ou des images qui sont stockées dans des grandes bases de données. Mais cette complexité en fait a un prix. Ce processus peut paraître simple, mais la consommation d'énergie fait partie de chaque activité informatique et en fait souvent négligée en raison de la nature intangible du secteur numérique. Je peux donner quelques exemples à ce sujet. Je donnerai un nom d'entreprise, mais c'est jamais de la publicité ou des conseils d'investissement. Lorsque la société d'IA Hugging Face a lancé son modèle qui s'appelle Bloom, elle a affirmé qu'en adoptant des pratiques qui réduisent l'empreinte carbone et les émissions du dioxyde de carbone, elle adoptait l'énergie hydroélectrique plutôt qu'une centrale thermique au charbon. Ce qu'ils ont dit, en fait, était passionnant, car ils affirment que et cette application peut réduire les émissions de carbone dioxyde de 95% par rapport au modèle équivalent.
D'accord, donc si j'ai bien compris, c'est à nous de faire attention à l'utilisation de cette technologie parce qu'elle est énergivore et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Merci Ati pour ton information sur les enjeux environnementaux issus de l'IA. En transition de la seconde partie de l'émission, nous vous proposons d'écouter un générique presque connu de tous, recréé par une intelligence artificielle.
Un jour je serai je fleuve à présent les pays. Je ferai tout pour être bon vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, d'accord avec espoir. Les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir.
Nous sommes de retour dans l'émission Vers de Terre. Aujourd'hui, dans Y'a quoi, nous tentons de vulgariser ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous venez d'entendre le générique Pokémon, interprété par Johnny Hallyday. C'est bien une construction de l'IA, nous vous rassurons, ce remix n'est jamais sorti en vrai. Pour revenir à notre émission, nous allons maintenant nous intéresser aux non-dits de l'IA. Eliette, peux-tu nous dire qui sont les personnes derrière l'IA ? Qui sont celles et ceux qui travaillent au service de l'IA pour la rendre plus efficace ?
Oui, eh bien, ces personnes, on les appelle les travailleurs du clic, ou data workers en anglais.
C'est drôle parce que j'en avais jamais entendu parler.
Et oui, parce qu'en fait, ces travailleurs sont la face cachée de l'intelligence artificielle, ou le revers de la médaille, si tu préfères. En fait, leur travail, il est totalement invisibilisé, pourtant il est nécessaire au bon fonctionnement de l'IA. Il serait environ entre 45 et 90 millions à l'échelle mondiale, donc c'est pas rien. Et le sociologue Antonio Casilli les surnomme même le nouveau prolétariat du numérique.
Ah oui, et du coup, ça veut dire quoi être travailleur du clic ?
Eh bien, en fait, leur métier consiste à ajuster les modèles de l'IA et à identifier des objets et des motifs pour entraîner l'IA à les reconnaître. Donc, un travailleur du clic va passer son temps de travail à trier des contenus numériques et à les classer dans différentes catégories. Par exemple, une catégorie arbre ou une catégorie chat. Mais le problème derrière tout ça, c'est que les travailleurs du clic sont en majorité exposés à des contenus violents et extrêmes, comme des scènes de viol, des scènes d'exécution ou des accidents qu'ils doivent ensuite classifier. Donc beaucoup de ces travailleurs souffrent de troubles post-traumatiques et ne sont pas accompagnés pour y faire face. Donc l'impact et la pression psychologique de ce travail ne doivent pas être mis de côté. Et en termes de conditions de travail, eh bien, c'est pas forcément mieux. Le sociologue autrichien Christian Fuchs parle d'exploitation ouvrière des travailleurs du clic. Ce sont donc les grandes firmes du numérique et de l'IA qui exploitent des millions de personnes précaires à travers le globe, et plus particulièrement dans des pays où la main-d'œuvre est dite de bon marché, comme au Kenya, aux Philippines ou en Malaisie. Ces travailleurs n'ont accès à aucune protection sociale, échappent à toute contrainte en termes de droit du travail et sont très faiblement rémunérés.
Et quand tu parles d'exploitation, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors nous, quand on parle d'exploitation, on se base sur la conception du philosophe Stefan Haber, qui voit l'exploitation comme un ensemble de trois phénomènes qui sont liés. Donc pour lui, l'exploitation correspond à une rémunération très faible par rapport aux besoins des travailleurs. L'exploitation, elle correspond aussi à une rémunération inégalitaire, c'est-à-dire que les personnes qui bénéficient et profitent du travail des travailleurs du CLIC ont des rémunérations largement plus élevées. Donc là, on peut penser par exemple aux ingénieurs travaillant pour l'IA dans les bureaux de la Silicon Valley, pour caricaturer. Et enfin, Stefan Haber parle d'exploitation quand les conditions de travail sont très mauvaises et épuisantes. Donc ces trois conditions, elles nous permettent de parler d'une réelle exploitation des travailleurs du CLIC.
Et du coup, ces travailleurs, où est-ce qu'ils travaillent ?
Eh bien, comme on l'a dit, ce sont surtout des travailleurs précaires, issus de pays dits en développement économiquement. Donc ils travaillent en majorité depuis chez eux, devant leur ordinateur, pour des plateformes dites de micro-tâches. Il leur est demandé d'avoir un statut d'auto-entrepreneur, qui ne présente aucune garantie sociale et aucune prise en charge du matériel. Les travailleurs du CLIC sont payés à la tâche et gagnent, pour la plupart, moins que le salaire minimum du pays dans lequel ils travaillent, soit une moyenne de 3 dollars par heure. Et ce travail, il nécessite également une extrême disponibilité et une réactivité importante pour obtenir une mission. Donc, beaucoup de travailleurs du CLIC créent des alarmes en pleine journée et en pleine nuit pour être sûrs de ne rater aucune offre de travail. Toutes les tâches ont un temps de réalisation maximum et si la tâche est inachevée dans ce temps, eh bien la tâche elle est remise sur le marché et le travailleur n'est donc pas payé malgré le travail qu'il a fourni.
Ah oui, d'accord. C'est vraiment pas glorieux humainement en fait. Je me tourne vers toi, Joël, maintenant, qui a plus étudié le cas d'une entreprise sous-traitante de l'IA employant des travailleurs du CLIC. Est-ce que c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. D'autres travailleurs du CLIC travaillent aussi dans des entreprises sous-traitantes et dans des usines. Laissez-moi vous expliquer le cas de l'entreprise Sama, dont l'un de ses entrepôts est situé à Nairobi, au Kenya. Sama est une société californienne chargée d'effectuer des filtrages et des sélections de contenu pour de grandes sociétés comme Facebook ou OpenAI. L'entreprise Sama se dit elle-même éthique et engagée dans la lutte contre la pauvreté en proposant des emplois dans le secteur du numérique. Mais ce qu'elle ne dit pas, ce sont les conditions de travail et la violence du travail imposé. La plupart de ses employés sont appelés des modérateurs d'IA et leur travail consiste à lire des descriptions de scènes extrêmement violentes et à les classer. Les employés travaillent environ 10 heures par jour avec un temps de pause réduit en échange d'une compensation de 2 dollars par heure.
Mais c'est vraiment horrible et hypocrite de leur part. Comment t'as découvert ça, Joël ?
Eh bien, sur ce sujet, le journal American Times a publié une enquête que je vous invite à lire, qui s'appuie sur des témoignages d'employés et des documents de l'entreprise révélant les conditions de travail extrêmes et la torture mentale, comme le souligne une des employées de Sama. Cette exploitation dans le travail numérique n'a rien de nouveau et renforce un rapport de force établi depuis de nombreuses décennies. Cette organisation du travail dans le numérique reproduit une séparation entre d'un côté les pays du Nord qui profitent du travail effectué par les travailleurs précaires et de l'autre les travailleurs des pays du Sud exploités et sous-payés. On peut y voir ici une forme d'exploitation humaine néocoloniale.
Ah bah c'est pas nouveau, hein. Ça me fait penser à d'autres systèmes néolibéraux.
Cette nouvelle forme d'exploitation s'ancre aussi dans un contexte plus large, qui est celui d'une ubérisation de l'économie mondiale, c'est-à-dire le développement d'un travail à la tâche, flexible et non réglementé.
Et du coup, si les gens et les médias sont au courant des conditions de travail de ces travailleurs du CLIC, est-ce que c'est en train de changer ?
Eh bien, on peut l'espérer pour les prochaines années, mais pour l'instant, ça reste majoritairement un sujet tabou et ignoré par les politiques. Comme on l'a souligné, les travailleurs du CLIC échappent à toute réglementation et toute contrainte légale et morale du droit du travail. Ces travailleurs du CLIC représentent un groupe très hétérogène d'individus dispatchés aux quatre coins du globe.
Et est-ce qu'on peut imaginer une prise en charge au niveau du droit du travail et au niveau de la réglementation ?
Une réglementation au niveau mondial semble difficile, mais pas impossible. En 2018, par exemple, l'Organisation internationale du travail a publié un rapport présentant 18 critères pour garantir un travail décent des travailleurs du numérique, en instaurant par exemple un salaire minimum en fonction du pays de résidence des travailleurs. Il proposait également un encadrement juridique du travail du CLIC et une représentation syndicale des employés. Ces mesures semblent être le strict minimum pour garantir des conditions de travail justes et des droits pour ces travailleurs. Ces travailleurs doivent être reconnus comme des salariés et les entreprises de l'IA doivent être fortement régulées.
Alors oui, parlons régulation, parlons réglementation. Merci Eliette et merci Joël pour la mise en visibilité des travers du CLIC et des travers de l'IA que vous venez de nous donner. Je me tourne alors vers toi Mathis. Dis-moi, pourquoi est-ce qu'on ne régule pas l'IA ?
Eh bien, on essaye, mais c'est compliqué pour l'instant. On bredouille un peu, mais ça avance.
Ah, c'est-à-dire ?
Eh bien, un premier ensemble de réglementations a été instauré en Union européenne en 2024, qui s'appelle l'IA Act.
Ok, l'IA Act, c'est une sorte de premier test.
C'est un peu ça, car c'est le premier acte législatif sur l'intelligence artificielle qui établit des règles pour veiller à ce que les systèmes d'IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, valeurs de l'UE, durabilité environnementale, etc.
Ah bon, et il faudrait pas plutôt les interdire quand on voit les dangers
Eh bien justement, puisque c'est compliqué d'interdire, cette loi vise à minimiser les risques et à garantir que les développements technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle se fassent de manière responsable et éthique.
Ok, j'entends, donc impossible de s'en passer, mais du coup, comment est-ce qu'on réglemente ?
Alors, ce règlement, il établit, si je fais une petite liste, tout d'abord des règles harmonisées pour la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des IA en Europe, l'interdiction de certaines pratiques, des règles harmonisées en matière de transparence concernant les IA destinées à interagir avec des personnes, la reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique, et les IA utilisées pour générer ou manipuler des images ou des contenus audio ou vidéo. Enfin, des mesures visant à soutenir l'innovation, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, et surtout des exigences spécifiques pour les IA à haut risque.
Attends, deux secondes, ça veut dire qu'on a des IA qui représentent plus de risques que d'autres ?
Et oui, l'IA Act définit même quatre catégories d'IA en fonction des risques possibles. Donc il y a tout d'abord les IA au risque minimal ou nul. Ensuite, on a les IA au risque limité. Ces systèmes, eux, doivent informer les utilisateurs qu'ils interagissent avec une IA. Par exemple, les chatbots que l'on peut retrouver sur certains sites internet.
Ah oui, ou bien les IA génératives qui doivent indiquer que le contenu est artificiel.
Voilà, exactement. Ensuite, on a les IA au risque élevé. Ce sont celles avec un impact significatif sur la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux.
Par exemple, dans les domaines de la justice, de la biométrie...
De l'éducation, de l'emploi, voilà. Et enfin, on a les IA au risque inacceptable.
Voilà, j'ai peur, il y en a beaucoup ?
Eh bien non, justement, elles sont strictement interdites, tout du moins en Europe. Ce sont celles qui permettent de faire des notations sociales, d'exploiter la vulnérabilité de certaines personnes, et celles qui permettent d'identifier des personnes de manière biométrique, donc grosso modo à partir de caractéristiques physiques notamment, à distance, en temps réel et dans les espaces publics.
Et donc cet IA Act, il est en place depuis un an, c'est ça ?
Alors pas tout à fait. Il a été validé en 2024, oui, mais ce n'est qu'en février 2025 qu'on a interdit les IA présentant des risques inacceptables. En août prochain, on va mettre en place des règles pour les IA à usage général, et on va désigner des autorités compétentes dans chaque État membre pour assurer le suivi de ces règles.
Ok, donc on a des IA qui sont interdites par cette nouvelle loi, mais sur quels critères ?
Eh bien, ce fut longtemps débattu, mais au final, on a défini que certaines pratiques d'IA ne seront pas autorisées. Et comme c'est assez peu digeste à entendre, laissez-moi plutôt vous raconter une petite histoire. Nous sommes le mardi 2 juin 2025. Vous vous levez dans votre magnifique appartement de la banlieue toulousaine. Vous regardez votre téléphone pour vérifier les messages reçus dans la nuit. Puis vous scrollez une petite minute, plutôt une dizaine. Bon, finalement une heure sur Instagram, à regarder des photos de chutes grotesques, de chats, de recettes de gâteaux en tout genre que vous enregistrez, mais que finalement vous ne referez jamais. Eh bien, sans ce texte de loi, on aurait pu avoir une IA qui aurait ajouté des dizaines d'images subliminales pour vous proposer d'acheter la dernière Tesla, c'est-à-dire des images dans les images et vidéos, que vous voyez, mais qui ne sont pas consciemment visibles. Cependant, elles s'impriment quand même dans votre esprit. Et peut-être même que dans les mois à venir, vous en aurez acheté une. Cette IA a permis d'altérer votre comportement de manière à contourner votre libre arbitre. Comme on est mardi, vous allez appeler votre grand-mère de 80 ans, qui vous annonce avoir fait une affaire. Elle vient de s'acheter un pack de compléments alimentaires grâce à une magnifique promotion. 3 mois achetés, 3 mois offerts. Elle ne sait pas que derrière cette annonce, cependant, se trouve une IA spécialement entraînée pour exploiter la vulnérabilité des personnes âgées et handicapées. Vous raccrochez, et vous vous souvenez que vous devez valider votre nouveau contrat d'assurance voiture. Vous ignorez que votre personnalité a été évaluée et classée fiable par l'assureur grâce à une IA qui a analysé votre comportement social et vos caractéristiques personnelles. Il a utilisé pour cela des données biométriques et des caractéristiques sensibles, telles que vos opinions politiques, religieuses, philosophiques. Vous sentez les préjugés perdurer avec un système comme ça ? Vous sortez dans la rue, achetez de quoi faire la cuisine pour ce midi. Les caméras de la ville vous observent. Heureusement, l'IA qui évalue et prédit le risque qu'une personne commette une infraction pénale sur base de profilage physique ou de l'évaluation de ses traits de personnalité ou caractéristiques ne vous détecte pas comme dangereux. La voiture de police passe devant vous sans faire de contrôle d'identité et vous pouvez rentrer chez vous. Cependant, vous faites désormais partie d'une base de données de reconnaissance faciale gérée par une IA. Ça fait peur, n'est-ce pas ? Et bien pourtant, toutes ces IA que je viens de vous citer ont été interdites par la loi. Il peut y avoir des exceptions dans les établissements scolaires, de santé ou dans la prévention d'attaques terroristes par exemple.
Mais est-ce que tout cela va vraiment être respecté, Mathis ?
Alors là, Lou, je ne sais pas. Par contre, en tant que citoyen, nous avons le droit de déposer des plaintes concernant des IA et de recevoir des explications sur les décisions prises à partir d'IA dites à haut risque, donc, ayant une incidence sur nos droits. Le non-respect des règles pourrait entraîner des amendes pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires mondial en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction.
Merci Mathis, je vois le temps qui file, mais pour résumer, le texte vise à garantir une IA respectueuse des droits fondamentaux, entre autres face au risque de pratiques discriminatoires, de remise en cause des processus démocratiques, d'atteinte à la vie privée, d'utilisation de l'IA par certains États à des fins répressives. Mais ce texte est loin d'être parfait, alors restons vigilants et exigeants. Merci à tous les cinq pour ce partage, nous comprenons mieux comment l'IA est au cœur des débats technosolutionnistes et de cette idée que la technologie pourrait un jour sauver le monde. Pour terminer, si vous aviez une référence à nous partager chacun chacune, ce serait laquelle ? Yann ?
Alors, moi je vais vous conseiller l'ouvrage « De l'autre côté de la machine » d'Aurélie Jean, qui est une scientifique numéricienne spécialiste de la modélisation numérique, qui permet de comprendre la création et l'utilité d'un algorithme. Elle le démystifie un peu.
D'accord. Eliette et Joël ?
Alors nous, on peut vous recommander le documentaire en libre accès sur France TV/, qui s'appelle « Invisibles, les travailleurs du clic » et qui date de 2022. Donc ce documentaire, il se base notamment sur les travaux de recherche d'Antonio Casilli qu'on a évoqué précédemment. Et ce documentaire, il dévoile toutes les problématiques des dessous du numérique et décrit le quotidien de ces travailleurs précaires invisibilisés.
Ok. Ati ?
Et de mon côté, je vous conseille d'aller jeter un œil à un petit manuel d'essayiste politique qui s'appelle Hypnocratie de Chan Weishun, qui est également un produit de l'IA aussi, qui parle de cet état de quasi-satisfaction permanente dans lequel nous plongent des algorithmes pour retenir notre attention dans un état hypnotique d'attente du prochain message, de la prochaine notification, du prochain contenu plaisant, ainsi que l'incitation au multitasking, cette injonction à faire plusieurs choses en même temps, mais qui empêche la pensée critique de se développer.
D'accord, super. Et Mathis ?
Alors de mon côté, je me dois de parler de Rosa, ce penseur qui affirme que notre société ne fait que s'accélérer et que ça nous rend malades et désorientés, incapables de vivre pleinement le présent. Il parle donc de désynchronisation, vous allez vite comprendre le rapport avec l'IA. Car quand nos journées sont tellement compressées que l'on fait tout plus vite, manger, dormir, travailler, et que pourtant on a l'impression de manquer de temps, c'est paradoxal. Les technologies censées nous en faire gagner nous en font perdre, à cause de l'effet rebond, comme l'illustre parfaitement l'exemple des mails. Aujourd'hui, je suis prêt à vous parier, Lou, que la quasi-totalité de nos auditeurs reçoivent plus de mails qu'ils ne recevaient de lettres avant sa démocratisation. Nous sommes constamment sollicités. Rosa dit aussi que cette accélération nous empêche de penser. Et donc, dans cette logique, l'image prend le dessus sur la parole. Elle est plus rapide, plus persuasive, mais elle caricature aussi, simplifie et trompe, parfois. L'image supplante le discours et donc la pensée critique, d'où le lien avec l'IA et ses nombreuses images générées, pour nous faire rire mais pas que. Et c'est là que Rosa parle d'un totalitarisme de l'accélération. Ce rythme s'impose à tous, sans qu'on puisse y échapper. On ne peut même pas le remettre en question finalement. Parce que voilà, le temps, c'est vu comme une évidence, pas comme une construction sociale. Pourtant des alternatives existent, comme la décroissance. C'est une autre façon de vivre le temps, ralentir et surtout critiquer l'usage des technologies pour retrouver un rythme plus humain. C'est un choix politique autant qu'existentiel.
Et oui, on peut se demander si on peut vraiment ralentir et est-ce qu'on est prêt à le faire ? Ce sera peut-être le sujet d'un prochain épisode. En tout cas, merci pour votre temps, merci à nos auditeurs, à nos auditrices pour votre écoute. On remercie Grégor à la technique, Jacques Laverne, président d'Esprit Occitanie et Jean-Luc, son coprésident. En tout cas, prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée, loin des IA et proche de la nature. Of the soil, they got to keep him all in mind. Can you hear it when your baby's crying? Ooh, when your sweetheart sighing? When you're texting all the time?